Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Alors la semaine dernière, si je me souviens bien, j'avais terminé en vous parlant des raisons pour lesquelles Villemin considère que la théorie défendue par Rawls dans sa théorie de la justice, donc la théorie de la justice comme équité, donc des raisons pour lesquelles Villemin considère qu'il s'agit d'une conception qui n'est pas, comme le pense Rawls, kantienne, mais est plutôt une conception de type conventionnaliste et sceptique. Alors l'argument principal utilisé par Villemin est assez bien résumé dans le passage que vous avez sous les yeux. La difficulté donc, tient au fait que chez Rawls, la négociation dans le contrat, puisqu'il s'agit d'une théorie contractualiste, la négociation ne porte pas simplement, comme c'est le cas dans les théories contractualistes classiques, elle ne porte pas simplement sur la question de la forme politique qu'une communauté d'individus libres peut décider de se donner, ou la forme de gouvernement qu'il souhaite adopter, mais sur l'idée de justice elle-même. C'est l'idée de justice elle-même qui fait l'objet d'une négociation, et ce problème de la détermination de ce que doit être la justice ne peut faire l'objet que d'une convention, ce qui réduit la position à laquelle Rawls aboutit, ce qui réduit cette position nécessairement à une position qui peut être qualifiée de sceptique. Villemin dit, quant à elle, les volontés individuelles, donc il s'agit des volontés individuelles telles qu'elles se présentent au moment où elles entrent dans la négociation, les volontés individuelles, ainsi dépouillées de leurs particularités et réduites à l'état de sujet de décision rationnelle, n'obéissent à aucune idée de justice, la justice ne devant résulter que de leur choix collectif. Ignorant de leur futur statut, affranchis des accidents naturels et sociaux, ces individus libres et égaux choisiront le principe de justice propre à maximiser leurs désirs indéterminés des biens primaires auxquels et auxquels seuls obéit leur volonté. La moralité chez Kant supposait une raison pratique solitaire instituant la loi et la substituant au calcul intéressé qu'éclaire la raison théorique. Ce qui se passe chez Rawls, c'est que d'après Villemin, on ne sort pas de cette situation-là, hein, c'est-à-dire d'un calcul d'intérêt qui est orienté et régulé essentiellement, non pas par la raison pratique, au sens kantien de l'expression, mais à nouveau par la raison théorique. La justice, selon Rawls, c'est une création collective. Nul individu n'en concevrait le principe, borné qu'il était à ses désirs indéterminés. Tous le produisent par convention, c'est-à-dire personne pris individuellement ne possède une véritable idée de la justice, mais la justice résulte d'une négociation collective. Donc tous produisent le principe de la justice par convention, mais nul n'abandonne pour autant, ajoute Villemin, les calculs de la raison théorique. Donc on se situe toujours stricto sensu au niveau de la raison théorique. Nul n'abandonne pour autant les calculs de la raison théorique, seul à nous être accessible. Telle est l'interprétation procédurale de l'autonomie kantienne. Fin de citation. Donc, ce qui fait de la position de Rawls, contrairement à la façon dont il la perçoit et la présente lui-même, une position sceptique, c'est le fait que la création de la justice n'obéit à aucune idée de justice qui la précède et la dirige, et que même après que la négociation a abouti, donc même après le vote, on ne peut toujours pas espérer savoir ce que on s'était promis de savoir, c'est-à-dire ce qu'est exactement la justice. Car ce qu'on a appris à la fin de la négociation n'est toujours pas ce qu'est la justice, mais seulement ce que, dans le meilleur des cas, une majorité d'individus est prête à considérer comme telle. Or, même si les citoyens croient vouloir une chose, qu'ils sont d'accord pour appeler par convention la justice, ce qu'ils veulent en réalité est peut-être essentiellement, estime Villemin, la garantie d'une certaine tranquillité. Et je vous avais, je crois, indiqué que sur ce point, Villemin donne la parole au sceptique carnéade, en tout cas, si vous voulez, au genre de sceptique qui est incarné de façon exemplaire dans le personnage de Carnéade. Alors, un philosophe de cette sorte s'exprimera, d'après lui, de la façon suivante. « J'ignore, dira-t-il, ce qu'ils entendent par le mot « justice ». J'observe qu'ils le prononcent plus souvent en période de trouble, quand ils vitupèrent l'excès des inégalités. Une cité juste est donc une cité tranquille. » Et une cité tranquille est une cité où les inégalités entre les citoyens leur paraissent tolérables. À quelles conditions est-il probable qu'elles leur paraîtront tolérables ? Donc, vous voyez là Le problème en ce qui concerne les inégalités, ce n'est pas tellement qu'elles peuvent et doivent être considérées comme injustes en référence à une certaine idée de la justice, mais c'est plutôt qu'elles sont dangereuses parce qu'elles risquent d'entraîner des perturbations qu'on souhaite éviter. C'est-à-dire que le souci qui peut être considéré comme dominant dans ce genre de raisonnement, c'est le souci de la tranquillité et non pas la préoccupation pour la justice. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, vous avez compris déjà qu'on n'est pas sorti, d'après Villemin, du domaine de l'apparence. On s'est mis d'accord donc sur une certaine apparence de justice, mais pas sur quelque chose qui mériterait d'être appelé réellement la justice. Et donc on n'est pas sorti du domaine auquel les sceptiques souhaitent, par définition, se cantonner. Qu'est-ce qu'une cité juste ? Une cité juste est une cité qui semble juste. Et elle semble juste parce qu'elle semble tranquille, autrement dit, parce qu'elle semble raisonnablement protégée contre le risque de trouble, sans que ceci soit pour autant tout à fait exclu, puisque même l'improbable peut finir par se produire. C'est une conception qui est évidemment bien différente de celle des philosophies du droit, qui cherchent à s'appuyer, elles, sur une idée objective de la justice. Une idée qui non seulement soit objective, mais qui puisse être considérée comme accessible à une raison individuelle. Une raison individuelle et antérieure à la situation du contrat. C'est ce que Villemin explique dans la deuxième citation que vous avez sous les yeux, interprétée dans ces termes, donc c'est-à-dire retranscrit dans la terminologie du sceptique carnéen. Le contrat de justice se réduit à la fiction d'un contrat rêvé par un sceptique amateur de tranquillité. Mais cette fiction n'est pas rien sur une scène où les acteurs ont plus d'inquiétude que de foi. Et là, vous avez déjà fait remarquer, je crois que cet aspect de la question est tout à fait important pour Villemin. Il considère que la construction à laquelle se livre Rawls s'est adaptée à une situation dans laquelle, comme il le dit, les acteurs ont plus d'inquiétude que de foi. C'est-à-dire leur préoccupation première est la tranquillité. Ce qui menace le plus la tranquillité, évidemment, c'est le risque de troubles, lesquels peuvent être causés pour une part importante par un excès d'inégalité. Par conséquent, le problème numéro un peut sembler être de les guérir de leur inquiétude. Mais pour ça, il faut réussir soit à diminuer celle-ci, soit à l'apaiser complètement, ce qui ne peut se faire en aucun cas par l'appel à un acte de foi. On ne peut pas leur demander d'avoir foi en quelque chose, parce que, encore une fois, ils ont plus d'inquiétude que de foi, donc on ne peut pas compter sur la foi, il faut compter sur la conclusion d'une convention susceptible d'être considérée comme raisonnable et en même temps relativement rassurante, hein, c'est-à-dire comme étant de nature à minimiser, autant que faire se peut, le risque de trouble. J'ai insisté également sur le fait que, conformément à une attitude qui est constante chez lui, Villemin n'exprime en fait aucune condamnation et pas non plus une forme quelconque de condescendance et encore moins de mépris à l'égard d'une position comme le scepticisme. Il ne formule pas de condamnation contre ce genre de position, pas plus dans le domaine de la philosophie du droit qu'en général. Il considère en effet qu'une position de cette sorte est parfaitement respectable et défendable. Et elle pourrait même présenter des avantages non négligeables pour une époque comme celle dans laquelle nous vivons, qui ne peut peut-être plus, en matière de droit, se payer le luxe de chercher encore à être réaliste, autrement dit dogmatique, au sens dont il est question dans la classification de Villemin, ni même, tout compte fait, à être intuitionniste. Donc il est possible que une position comme celle qui est exposée et défendue par Rawls, qui encore une fois aux yeux de Villemin n'est pas une position kantienne, donc intuitionniste, mais une position sceptique, il se pourrait que ce soit le genre de position qui se révèle être le plus séduisant dans des sociétés comme les nôtres, se trouvant dans l'état où elles se trouvent aujourd'hui, effectivement. Ce qui est clair en tout cas, c'est que Villemin ne suggère à aucun moment que le scepticisme pourrait être incompatible avec la construction d'une théorie de la justice. Et il ne le croit. Autrement dit, il admet parfaitement que ce que propose Rawls est bien une théorie de la justice d'une certaine sorte. Mais, selon lui, c'est une conception, une théorie qui doit être considérée comme sceptique et non pas kantienne. Et il faut ajouter à cela que Villemin ne croit pas non plus que le scepticisme soit incompatible avec la construction d'une philosophie morale digne de ce nom. Et encore moins avec la morale elle-même. Bien que ce soit le genre de choses qu'on dit assez souvent, ce n'est pas du tout le point de vue de Villemin, et vous pouvez vous reporter sur ce point à ce que dit Vidal-Rosset, exposant la pensée de Villemin, il suffit aux sceptiques de se donner un système de règles pour agir tout en suspendant son jugement sur la valeur réelle qu'ont les idées morales au-delà des limites subjectives du système. Donc à condition de ne rien affirmer en ce qui concerne la question de la validité des idées morales en dehors des limites subjectives du système, le scepticisme est tout à fait en mesure de donner naissance à la constitution d'une morale. Alors, Villemin s'est posé, a regardé d'assez près donc, la différence qui existe entre l'option qu'il appelle intuitionniste et l'option sceptique, et j'aimerais à ce propos vous dire un mot du passage suivant dans lequel il procède à une mise au point que je crois très utile sur la nature exacte de la distinction qui existe entre ces deux espèces de systèmes philosophiques. Les systèmes à l'intérieur donc de la catégorie de ce qu'il appelle les systèmes de l'examen, il y a deux options possibles, l'une beaucoup plus radicale évidemment que l'autre, le scepticisme. Ce qui caractérise l'intuitionnisme, donc, c'est l'adoption d'une notion de la vérité qui n'est pas la notion classique, la notion réaliste classique. Je vous ai déjà indiqué, je crois, assez clairement de quoi il s'agissait. Tandis que ce qui caractérise le scepticisme, c'est le fait de mettre en question l'idée même de vérité, en tout cas la possibilité d'atteindre quelque chose qui mériterait d'être appelé la vérité. Alors, en ce qui concerne ce problème, donc, comment faut-il caractériser exactement le scepticisme par rapport à l'intuitionnisme, qui est son rival à l'intérieur de la catégorie des systèmes de l'examen. Villemin dit ceci: à première vue, la correspondance entre le scepticisme et la dernière proposition élémentaire dans la série subjective semble surprenante. Alors vous rappelez peut-être, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, que ce qui caractérise l'intuitionnisme, c'est le fait de choisir dans la classification des propositions élémentaires, c'est le fait de choisir comme forme de prédication élémentaire ce que Villemin appelle le jugement de méthode. Tandis que ce qui caractérise le scepticisme, c'est le fait de choisir dans cette même classification des propositions élémentaires, de choisir donc comme élément de base, comme forme propositionnelle de base, le jugement d'apparence. Ce qui amène Villemin à remarquer, à première vue, la correspondance entre le scepticisme et la dernière proposition élémentaire, donc le jugement d'apparence, dans la série subjective, semble surprenante. Les jugements d'apparence sont certains dans la mesure où ils ne vont pas au-delà des apparences. Or, le doute sceptique diffère du doute intuitionniste, précisément dans sa prohibition de toute relation comportant un engagement ontologique, que ce soit une relation subjective ou non, et il doit être comparé plutôt à la fiction qui neutralise les attitudes propositionnelles pour lesquelles le doute est pertinent. Donc, on peut considérer que ce qui caractérise le scepticisme, c'est en effet cette interdiction de toute relation comportant un engagement ontologique à l'égard d'une réalité quelconque. Encore une fois, il faut s'en tenir au domaine de l'apparence, dans toute la mesure du possible. Et ça oblige évidemment à neutraliser, comme le dit Villemin, toutes les attitudes propositionnelles pour lesquelles le doute est pertinent. La transition, dit-il, néanmoins, est facilement faite. Du jugement d'apparence, le sceptique retient que son contenu est asserté uniquement comme l'objet d'une attitude propositionnelle. Ce contenu est donc provisoirement et jusqu'à plus ample informé abandonné comme une fiction, dans la mesure où une fiction est une assertion suspendue, ou plutôt une assertion dans laquelle on est d'accord sur le fait que ce sur quoi elle porte est suspendu par nous. C'est ça qui constitue la caractéristique du scepticisme. Il ne peut accepter en fait d'assertions que des assertions qui sont suspendues, c'est-à-dire, comme l'explique Villemin, des assertions, le type d'assertion dans lequel on est d'accord sur le fait que ce sur quoi porte l'assertion est suspendu par nous. Faites, dit Villemin, des fictions la catégorie suprême. Dans ce cas, admettez comme principe suprême que toute assertion dissimule une fiction, vous avez défini le scepticisme. Donc c'est ça qui définit à ses yeux le scepticisme, c'est au fond le fait que la catégorie ontologique suprême, pour autant qu'il puisse encore être question d'ontologie, dans le cas précis, donc la catégorie ontologique suprême, c'est la catégorie des fictions. En fait, admettez comme principe suprême que toute assertion dissimule une fiction, vous avez défini le scepticisme, la philosophie d'une ontologie suspendue. C'est une formule assez parlante qui sert à Villemin à caractériser le scepticisme. Le doute sceptique est très spécifique en ce qu'il ne laisse rien derrière lui, ce qui le distingue du doute intuitionniste, il ne laisse rien derrière lui. Comme la rhubarbe, il purge le sujet de la subjectivité. Alors la comparaison avec l'action de la rhubarbe, qui est reprise par Villemin, figure chez Montaigne, mais elle provient en fait de Diogène Laërce. Alors vous la trouvez reprise par Montaigne dans le chapitre 12 du livre 2 des Essais. Montaigne dit ceci à propos du scepticisme pyrrhonien, c'est un passage bien connu. Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Et d'ailleurs, ce passage commence de façon très remarquable. Montaigne commence par une observation dans laquelle il dit quelque chose comme du genre « La plupart de nos erreurs sont grammairiennes, c'est-à-dire notre langage, comme tous nos outils et comme tout ce que nous faisons, a ses défauts. Hein. » Là, le langage a un défaut assez remarquable qui est son incapacité il se prête très difficilement à l'exposition honnête d'une position sceptique. Pour la raison que cette exposition de la position sceptique ne peut se faire que sous la forme affirmative, qui est justement ce que les sceptiques souhaiteraient par-dessus tout éviter. Hein, ce qui l'amène à dire, donc je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Donc le nôtre est inapproprié pour ça. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives qui leur sont de tout ennemies. Donc c'est précisément ce genre de propositions qu'ils ne veulent pas. De façon que, quand ils disent « je doute », on les tient incontinent à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins assurent et savent-ils cela qu'ils doutent. Ainsi, on les a contraints de se sauver dans cette comparaison de la médecine sans laquelle leur humeur serait inexplicable. Quand ils prononcent « j'ignore » ou « je doute », ils disent, donc ils n'affirment en fait rien, si ce n'est sur un mode fictif ou fictionnel. Donc quand ils prononcent « j'ignore » ou « je doute », ils disent que cette proposition s'emporte elle-même quand et quand le reste, donc c'est-à-dire en même temps que le reste, ni plus ni moins que la rhubarbe qui pousse hors les mauvaises humeurs et s'emporte hors quand et quand elle-même, c'est-à-dire s'emporte en même temps qu'elle-même. Bon, ça c'est la difficulté à laquelle pourrait sembler se heurter le scepticisme, donc qui résulte du fait qu'il n'a à sa disposition, dans un premier temps, pour s'exprimer, que des propositions qui semblent être condamnées à être de forme affirmative. Comme vous le savez, certainement, donc, Montaigne conclut qu'au fond, la meilleure façon d'exprimer le scepticisme serait de procéder de façon interrogative, hein, sous la forme « que sais-je » et non pas sous la forme de l'affirmation « je ne sais pas ». Mais ce n'est pas tellement cette question qui nous intéresse pour le moment, c'est plutôt la question « que se passe-t-il lorsque les principes de la démarche sceptique sont appliqués à la question de la morale ?» Je disais il y a un instant qu'il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que la défense d'une position sceptique rende impossible la formulation d'une philosophie morale. Donc, que se passe-t-il lorsque les principes de la démarche sceptique sont appliqués à la question de la morale ? Si le scepticisme est, comme le dit Villemin, la philosophie d'une ontologie suspendue, on ne voit pas très bien comment il pourrait être aussi la philosophie d'une morale suspendue. Puisque s'il y a un domaine qui exige des choix et des décisions, c'est bien celui de la morale. Donc, il y a plutôt lieu de s'attendre à ce que la philosophie morale soit la dernière chose que le scepticisme souhaite par-dessus tout conserver. On peut vivre avec une ontologie suspendue, en tout cas si on est un sceptique, on peut le faire, mais on ne pourrait certainement pas vivre avec une morale suspendue. Donc la morale peut sembler être, en quelque sorte, la dernière chose qui reste absolument indispensable quand on est un philosophe sceptique. Il se trouve que Villemin a consacré à cette question un article important intitulé « Une morale est-elle compatible avec le scepticisme ?» Alors cet article, donc « Une morale est-elle compatible avec le scepticisme ?» est paru dans la revue Philosophie, dans le numéro 7, hein, qui a été publié en 1985. Bon, je souhaite vous en dire juste quelques mots, parce qu'évidemment, la question, vous en doutez, est importante. Alors, Villemin, dans cet article, distingue, je reprends ses propres termes, il distingue quatre formes ou degrés décroissants du scepticisme, qu'il appelle, premièrement, le scepticisme radical, deuxièmement, le scepticisme esthète ou raffiné, troisièmement, le probabilisme individuel, et quatrièmement, le probabilisme démocratique. Et il sera utile de vous indiquer dès à présent que c'est la quatrième forme de scepticisme, donc le probabilisme démocratique, qui lui semble représenter le plus adéquatement ou en tout cas de la moins mauvaise façon, la position que, sans s'en rendre compte, Searle défend. Je dis sans s'en rendre compte puisqu'il croit être en train d'exposer une position qui est de nature kantienne, alors que d'après Villemin, il expose et défend une position qui est de type sceptique. Non seulement, en fait, comme je l'ai dit, le scepticisme se révèle compatible avec la morale, mais on pourrait même dire de lui, et je l'ai suggéré également de façon implicite, on pourrait même dire de lui qu'il est avant tout une philosophie morale, puisque son but est de régler notre conduite de façon à ce que nous soyons préservés des troubles que provoque la douleur. Donc c'est ça le but ultime, et il est par conséquent indispensable de ce point de vue de disposer de règles de conduite appropriées. Et le scepticisme peut être, par conséquent, au moins sous ses formes les plus radicales, fatal à la connaissance, mais il ne peut pas se dispenser de fournir une réponse à la question pratique de savoir comment nous devons nous comporter, y compris et surtout s'il est entendu que nous ne savons et ne pouvons savoir à peu près rien. Ça, c'est la chose à laquelle il est impossible de renoncer, c'est-à-dire à la détermination d'une ligne de conduite à adopter, surtout si on doit accorder aux sceptiques que la connaissance nous est inaccessible, que nous ne savons à peu près rien ou même rien du tout. Vidal-Rosset a par conséquent raison de remarquer à ce propos que pour un philosophe comme Villemin, qui pourrait facilement passer pour scientiste ou positiviste, bien qu'il ne le soit en aucune façon, pour un philosophe de cette sorte, donc, la philosophie ne se définit pas nécessairement par le rapport à la connaissance scientifique. Ce serait une erreur totale de penser que chez lui, chez Villemin, donc la philosophie se définit nécessairement et principalement par le rapport à la connaissance scientifique. Même quand le scepticisme conteste l'intérêt et la possibilité même de la connaissance scientifique, voire même de la connaissance en général, il peut constituer encore une réponse cohérente et systématique à la question de savoir comment tracer la distinction entre l'apparence et la réalité, et par conséquent, il peut aboutir à la production d'une philosophie authentique. Un mot encore en ce qui concerne les quatre espèces principales de scepticisme que distingue Villemin. Alors le scepticisme qu'il appelle radical ou encore sauvage et exacerbé, ce scepticisme-là est celui de Piron. Il préconise, c'est celui auquel pense Montaigne dans le passage que je vous ai cité. Alors cette forme de scepticisme préconise l'indifférence pour la raison que rien n'est préférable parmi les apparences. Le scepticisme que Villemin appelle esthète ou raffiné est le scepticisme d'Aristippe de Cyrène. Villemin caractérise de la façon suivante la différence entre ces deux formes de scepticisme, donc le scepticisme radical et le scepticisme esthète. Vous avez le passage sous les yeux. Le scepticisme radical suspendait tout jugement, il égalisait tout, être et valeur. Donc il suspend pas seulement sur toute espèce d'ontologie, mais à la limite toute espèce de jugement. Le scepticisme raffiné limite pour l'ontologie, mais sauve les préférences. Donc il maintient ce qui est la caractéristique essentielle du scepticisme, c'est-à-dire le fait de n'accepter en matière d'ontologie qu'une ontologie suspendue, mais il sauve les préférences. Les préférences, toutefois, n'impliquent pas les préférables. Instantanées, elles ne prétendent à nulle stabilité. En aucun sens, elles ne constituent un ordre qui permettrait de comparer et de calculer, car l'idée même d'un ordre signifierait qu'on n'a pas trouvé la jouissance et que nous sommes asservis aux passions. Fin de citation. Donc, le scepticisme, qui est appelé esthète ou raffiné, sauve les préférences, mais ne sauve pas les préférables. Le scepticisme de la troisième espèce, après le scepticisme pyrrhonien et celui d'Aristippe, est celui de Carnéade. Il permet le choix d'une conduite qui se détermine en fonction d'un calcul de l'utilité, tout en restant individualiste. Donc, au dernier stade, la forme de scepticisme la plus modérée accepte donc de dépasser ce stade qui reste complètement individualiste. Alors, le scepticisme de Carnéade donc, permet le choix d'une conduite déterminée en fonction d'un calcul de l'utilité, mais reste cantonné dans le domaine strictement individuel. Alors, ce scepticisme carnéadien, de type utilitariste, accepte de prendre en considération non seulement les préférences instantanées, mais également les préférables, à la différence donc du scepticisme esthète. Et il accepte donc de considérer, le calcul des probabilités comme un instrument utile pour ordonner les préférables. Donc c'est pourquoi on peut l'appeler le probabilisme individualiste. C'est le fait qu'il accepte d'utiliser, ça tient au fait qu'il accepte d'utiliser le calcul des probabilités comme un instrument utile pour ordonner les préférables. Mais il ne se considère pas comme obligé de tenir compte des désirs et des choix d'autrui. Et c'est en cela qu'il reste donc, il reste par conséquent individualiste. Alors l'ultime affaiblissement ou affadissement, je ne sais pas comment il faut dire, du scepticisme, enfin, est le probabilisme démocratique dont la théorie de la justice de Rawls constitue, d'après Villemin, une illustration moderne plausible. Vous voyez la façon dont Vidal-Rosset présente les choses sur ce point. Le probabilisme démocratique tient compte de la manière dont le plus grand nombre considère la justice. C'est précisément ce dont la théorie de Rawls donne l'exemple, puisque la justice, l'idée, ce que doit être la justice, ou l'idée de justice à laquelle on accepte de se rallier, ce que doit être cette idée de justice, donc fait l'objet d'une négociation sur laquelle, au terme de laquelle on espère aboutir à un accord ralliant qui obtiendra l'approbation du plus grand nombre. Donc c'est à ça que correspond donc ce que Villemin appelle le probabilisme démocratique. Le probabilisme démocratique tient compte de la manière dont le plus grand nombre considère la justice, peu importe ce que celle-ci est réellement, et c'est là évidemment là, toute la différence qu'il y a entre une position sceptique et une position non sceptique. Le propre d'une position sceptique, c'est qu'elle réalise un accord sur ce qui est considéré comme étant la justice, mais n'est pas supposé déterminer ce qu'elle est réellement. Il suffit de simuler un contrat qui puisse donner satisfaction au plus grand nombre afin de préserver la tranquillité sociale. Le sceptique démocrate reste sceptique en refusant toute approche dogmatique des valeurs. Et la question, évidemment, que j'ai aussi évoquée, mais je ne vais pas bien tarder, c'est qu'il est question ici d'un sceptique démocrate, mais on pourrait se demander aussi si tout démocrate n'est pas par définition plus ou moins sceptique, s'il n'y a pas un lien de réciprocité entre ces deux choses, donc l'adhésion à position qui peut être qualifiée de sceptique et la conviction démocratique fondamentale. Alors, peu lui importe donc au sceptique démocrate, peu lui importe de savoir si les valeurs existent indépendamment des opinions, si elles ont une nature immuable ou ne sont en réalité que des conventions sociales. Donc, pour ce qui le concerne, les valeurs peuvent très bien se réduire au statut de simple convention sociale. C'est suffisant pour constituer le fondement d'un accord raisonnable et ayant en fait pour but principal donc de préserver dans une mesure raisonnable la tranquillité sociale. Alors j'en arrive maintenant à la huitième étape de mon parcours que j'ai intitulé intuitionnisme kantien et scepticisme rawlsien. Bon, elle comporte deux parties pour résumer donc je voudrais d'abord vous ajouter quelques précisions en ce qui concerne la confrontation développée par Villemin entre l'intuitionnisme kantien et le scepticisme rawlsien. Et puis ensuite, je voudrais vous dire quelques mots de la confrontation qu'on trouve également chez Villemin entre deux formes de rationalisme, le rationalisme dogmatique et le rationalisme intuitionniste, puisqu'il y a des versions dogmatiques et des versions intuitionnistes du rationalisme. Et Villemin a choisi pour développer et examiner cette confrontation, il a choisi deux exemples qui peuvent sembler à première vue surprenants. Il a choisi Saint-Anselme comme exemple de rationalisme dogmatique et Kant comme, pour des raisons que vous connaissez déjà, comme exemple de rationaliste intuitionniste. Alors pour commencer, je voudrais ajouter encore quelques précisions à propos de ce que je vous ai dit au sujet de la confrontation triangulaire qui a lieu dans le texte que j'ai commenté, entre Villemin, Kant et Rawls, puisque c'est bien sûr c'est une confrontation entre Kant et Rawls, mais c'est aussi, vous en doutez, implicitement une confrontation entre Villemin et les deux auteurs concernés, c'est-à-dire Kant et Rawls. Alors il se trouve que Rawls a publié en 2000 un livre intitulé « Leçons sur l'histoire de la philosophie morale »,« Lectures on the History of Moral Philosophy ». Donc, livre paru en 2000 aux presses de l'université Harvard. Et une traduction française de ce texte est paru en 2002 aux éditions de la Découverte. Alors c'est un livre, celui-là, donc le Leçon sur l'histoire de la philosophie morale, c'est un livre que Wittmann n'a probablement pas eu la possibilité de lire, puisqu'il est mort en janvier 2001. Et c'est, me semble-t-il, très dommage, parce que sa réaction aurait été particulièrement intéressante à connaître. Le livre, dont toute la partie 3, qui comporte 10 chapitres, est consacrée à Kant, donne en effet une idée beaucoup plus précise du genre de philosophie morale dont Rawls pense avoir tiré sa théorie de la justice, et également de ce qu'a pu être sa relation à la philosophie morale kantienne et à la philosophie de Kant en général. Donc on peut considérer qu'il donne des précisions tout à fait utiles sur ce qu'a été exactement sa relation à la philosophie de Kant. Inversement, bien entendu, il aurait été particulièrement intéressant de connaître la réaction de Rawls à la critique de Wittmann. Mais je n'ai, je l'avoue, qu'une connaissance limitée des écrits de Rawls et je ne sais pas avec certitude s'il y en a eu une ou non. Je veux dire si Rawls a eu ou non l'occasion de réagir à la critique de Wittmann. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de référence à Wittmann dans les leçons sur l'histoire de la philosophie morale. Il aurait pu y en avoir, mais il n'y en a pas, ce qui m'amène à supposer que Rawls n'a pas eu connaissance de l'article de Wittmann qui lui était consacré. Alors, je n'ai pas l'intention, cela va sans dire, d'entrer dans les détails de la discussion approfondie que Rawls consacre à la philosophie morale kantienne, et pas non plus d'essayer d'arbitrer le différend que Wittmann a avec lui sur l'interprétation de la philosophie de Kant. Je voudrais simplement essayer de comprendre un peu mieux en quoi consiste exactement le différend. Je commencerai par une remarque concernant la terminologie. Rawls parle d'une opposition fondamentale entre deux doctrines qu'il appelle l'intuitionnisme rationnel et le constructivisme moral. Et une opposition dont il remarque avec justesse qu'elle n'est pas l'opposition entre l'objectivisme et le subjectivisme, puisque toutes les deux reposent sur une conception de l'objectivité et la comprennent simplement de deux façons différentes. Et là, évidemment, les choses risquent de devenir un peu compliquées parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, ce que Rawls appelle l'intuitionnisme, et plus précisément l'intuitionnisme rationnel, ne correspond pas du tout, évidemment, à ce que Wittmann appelle l'intuitionnisme. Elle correspond bien davantage au type de position qu'il appelle dogmatique. Bon, donc il me faut ajouter encore quelques précisions sur le sens, la signification exacte que Rawls donne à cette expression intuitionnisme rationnel. Alors l'intuitionnisme rationnel, chez lui, est appelé de ce nom parce que les doctrines qui en relèvent s'appuient toutes, d'une manière ou d'une autre, sur une intuition intellectuelle. Il s'agit, comme il le précise, donc d'une intuitionnisme rationnel. Donc les doctrines qui entrent dans cette catégorie s'appuient toutes, d'une façon ou d'une autre, sur une intuition intellectuelle par laquelle nous avons une connaissance directe du contenu objectif d'idées comme celle du bien ou de la perfection, alors que Kant, justement, refuse catégoriquement de nous attribuer une intuition de cette sorte et de faire reposer sur elle la loi morale à laquelle nous sommes tenus de nous soumettre. Donc l'intuitionnisme rationnel est une position tout à fait opposée à la position de Kant, c'est-à-dire à l'intuitionnisme moral kantien, et il l'est précisément sur ce point crucial, hein, c'est-à-dire son acceptation dès le départ de l'idée d'une intuition intellectuelle par laquelle nous sommes censés entrer en contact direct avec le contenu objectif d'idées comme celle du bien ou de la perfection, ce qui est effectivement exactement le genre d'idée que récuse Kant. Alors du point de vue terminologique, comme Rawls a choisi d'utiliser le terme d'intuitionnisme pour qualifier les doctrines de cette sorte, c'est-à-dire celle que je viens de mentionner, il ne peut évidemment pas utiliser à nouveau ce terme intuitionnisme pour qualifier la position de Kant, et il choisit donc de parler à son sujet de constructivisme moral. Donc ce qu'il appelle constructivisme moral, dans le cas de Kant, c'est à peu de choses près ce que Wittmann appelle l'intuitionnisme moral kantien, alors que ce qu'il appelle intuitionnisme rationnel, encore une fois, correspond donc à la position que Wittmann appelle le réalisme ou le dogmatisme moral. Rawls estime, à tort me semble-t-il, qu'on ne s'est généralement pas assez rendu compte que Kant reprocherait tout aussi fermement son caractère hétéronome à l'intuitionnisme rationnel qu'il le fait dans le cas du naturalisme psychologique de Hume. voyez là-dessus, page 233 de la traduction française du livre de Rawls, Leçon de philosophie morale, il insiste particulièrement sur ce point, c'est-à-dire le fait que, du point de vue de Kant, qu'il s'agisse du naturalisme psychologique à la Hume ou de l'intuitionnisme rationnel, dans les deux cas, on a affaire à une conception philosophique qui est condamnée avec la même fermeté par Kant à cause de son caractère hétéronome. Autrement dit, elle nous fait ce genre de position, ces deux positions nous font retomber fatalement dans l'hétéronomie. Alors il me semble qu'en réalité tous les bons commentateurs de la doctrine kantienne ont souligné ce point comme il doit l'être. Alors les adversaires de Kant sur ce point sont des philosophes divers, en particulier des philosophes comme Leibniz et Clark, qui défendent une position dogmatique que Kant accuse de conduire fatalement à la négation du principe d'autonomie, pour une raison qui peut être exprimée de la façon suivante. Je cite, dans le constructivisme, c'est Rawls qui parle, dans le constructivisme moral de Kant, l'hétéronomie commence dès que les premiers principes sont fondés sur des relations entre les objets dont la nature est affectée ou déterminée par autre chose que notre conception de nous-mêmes en tant que personnes raisonnables et rationnelles, possédant les facultés de la raison pratique et par celle du rôle public des principes moraux dans un possible royaume des fins. Pour Kant, l'idée d'autonomie exige l'absence d'un ordre moral préalable à ou indépendant de ses conceptions, lesquelles déterminent la forme de la procédure qui spécifie le contenu des devoirs de justice et des devoirs de vertu. Il y a hétéronomie non seulement quand ces premiers principes sont déterminés par notre constitution psychologique spécifique, en tant qu'elle nous distingue des autres personnes rationnelles, comme chez Hume, mais aussi quand ils sont déterminés par une hiérarchie de valeurs morales saisie par l'intuition rationnelle, comme l'adéquation des choses chez Clark ou la hiérarchie des perfections chez Leibniz. Fin de citation. Nous avons là, comme vous pouvez le remarquer, somme toute un assez bon résumé de ce qui fait du système kantien, en matière pratique, un système intuitionniste, au sens que Wiemann donne pour sa part au mot dans sa classification. Donc, il y a une position tout à fait claire entre ce que Rawls appelle l'intuitionnisme rationnel, qui postule la préexistence d'une hiérarchie de valeurs morales que nous sommes capables d'appréhender par l'intuition rationnelle. Il y a donc une opposition tout à fait nette entre ce type de conception, donc l'intuitionnisme rationnel, et l'intuitionnisme kantien qui récuse dès le départ et tout à fait catégoriquement cette possibilité et la place et la met sur le même plan que le naturalisme psychologique jungien, en ce sens que l'une et l'autre de ces deux positions nous font retomber fatalement, portent atteinte fatalement à l'exigence d'autonomie et nous font même retomber directement dans l'hétéronomie. On peut dire en un certain sens que l'intuitionnisme rationnel et le constructivisme moral reposent tous les deux sur une conception procédurale de la raison pratique, puisque la détermination de l'action bonne résulte pour l'un et l'autre de l'utilisation d'une procédure correcte. Mais le résultat correct est déterminé dans un cas indépendamment de l'utilisation de la procédure correcte, c'est ce qui se passe avec ce que Rawls appelle l'intuitionnisme rationnel, alors qu'il ne l'est pas dans l'autre. Dans le cas du constructivisme moral, donc le résultat correct n'est pas déterminé indépendamment de l'utilisation correcte de la procédure correcte. Voyez le passage suivant, toujours de Rawls, le constructivisme et l'intuitionnisme, donc il s'agit une fois encore de l'intuitionnisme rationnel, le constructivisme et l'intuitionnisme rationnel reposent tous deux nécessairement sur une réflexion appropriée, sans quoi le constructivisme ne pourrait pas tester la formulation de la procédure correcte, ce qui le différencie de l'intuitionnisme et de l'ordre de l'explication, à savoir la notion de correction n'est pas expliquée de la même manière dans les deux cas, à savoir le fait d'affirmer qu'un jugement est correct parce qu'il découle d'une procédure qui nous donne généralement le résultat correct, celui-ci étant déterminé de façon indépendante, alors que, ça c'est ce que disent les partisans de l'intuitionnisme rationnel, donc nous disposons d'une procédure qui nous donne généralement le résultat correct, mais ce n'est pas la correction de la procédure qui détermine la correction du résultat. La correction du résultat est déterminée de façon indépendante de l'existence de la procédure et de son application. Tandis que le constructivisme affirme qu'un jugement est correct parce qu'il découle de nos conclusions après mûre réflexion sur ce qui fait que la procédure de la raison pratique est correcte, qu'elle est correctement mise en œuvre et qu'elle a recours exclusivement à des prémisses vraies. Fin de citation. Nous retrouvons ici, à peu de choses près, encore une fois, ce qui constitue, aux yeux de Villemain, la caractéristique de l'intuitionnisme, à savoir, donc, dans le cas de ce que Rawls appelle pour sa part le constructivisme moral, nous retrouvons à peu de choses près la caractéristique principale de ce que Villemain appelle l'intuitionnisme, à savoir le choix d'une notion de vérité ou de correction qui est constituée par la conformité aux règles de la méthode. Alors je vais passer sur les détails de la caractérisation de la procédure en quatre étapes que Rawls appelle la procédure IC en référence à l'impératif catégorique. Donc il expose une procédure en quatre étapes appelée la procédure IC qui est selon lui la procédure à laquelle nous devons recourir pour déterminer la correction d'un jugement ou d'un principe moral. Et en ce qui concerne donc l'opposition entre l'intuitionnisme rationnel et le constructivisme moral sur cette question, c'est-à-dire comment arriver à un jugement ou un principe moral correct, il décrit la situation de la manière suivante. Dans l'intuitionnisme rationnel, un jugement ou un principe moral correct tient sa validité d'une hiérarchie préalable et indépendante de valeurs morales. Cette hiérarchie est antérieure aux critères du raisonnable et du rationnel, ainsi qu'à toute conception adéquate des personnes en tant qu'êtres autonomes et responsables et membres libres et égaux d'une communauté morale. De fait, c'est cet ordre moral préalable qui détermine les critères du raisonnable et du rationnel. C'est ça le point important. Il y a un ordre moral préalable qui détermine les critères du raisonnable et du rationnel, ainsi que la façon dont il convient de concevoir l'autonomie et la responsabilité. En revanche, dans la doctrine de Kant, telle que nous l'avons interprétée, un jugement moral est correct s'il est conforme à tous les critères pertinents du raisonnable et du rationnel, dont la force d'ensemble s'exprime par la manière dont il se combine à travers la procédure IC. Pour Kant, cette procédure combine de façon adéquate toutes les exigences de notre raison pratique, qu'elles soient pures ou empiriques, dans un schéma de raisonnement pratique unifié. C'est là un des aspects de l'unité de la raison. La forme de cette procédure est a priori, elle s'enracine dans notre raison pratique et par conséquent, elle est pour nous pratiquement nécessaire. Dès lors, un jugement reposant sur ses principes et ses préceptes sera reconnu comme correct par toute personne pleinement raisonnable et informée. C'est le fait qu'il repose sur ses principes et ses préceptes qui fait de lui un jugement correct et qui fait en outre de lui, de toutes les personnes qui sont capables d'appliquer la procédure, qui fait de lui donc un jugement susceptible d'être reconnu comme correct par elle. C'est ce que Kant veut dire quand il affirme que ce type de jugement est universellement communicable. Et là, le problème, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer antérieurement, donc, est que Kant affirme que ce type de jugement est universellement communicable, mais selon une tendance qui est générale dans l'intuitionnisme, donc omet de s'interroger sérieusement sur les conditions de possibilité de cette communicabilité pratique du jugement correct. Bon, je ne m'attarde pas sur cet aspect. Ce qui nous intéresse en priorité est évidemment la façon dont on passe de l'exposé des principes de la philosophie morale à la théorie du contrat de justice, selon Rawls. Alors, pour comprendre comment s'opère ce passage, donc de l'exposé des principes de la philosophie morale à la théorie du contrat, il faut regarder, c'est justement sur ce point que les choses, d'après Villemain, ne se passent pas comme elles devraient se passer, et pour comprendre comment elles se passent réellement, il faut regarder ce qui se produit quand un agent moral idéal a à faire un choix entre des mondes sociaux différents associés à des maximes différentes. Par exemple, la maxime d'indifférence d'un côté et la maxime d'intérêt, ce qu'on peut appeler la maxime d'intérêt commun, de l'autre. Donc nous trouvons en face d'un agent moral idéal qui doit faire un choix entre deux sortes de mondes sociaux associés à deux espèces de maximes morales différentes et même opposées, donc la maxime d'indifférence d'un côté et de l'autre la maxime d'intérêt commun. Il ne peut, selon Kant, s'il a à choisir entre le monde social ajusté associé avec le principe d'indifférence et celui qui est associé avec le précepte d'assistance mutuelle, il ne peut que choisir le deuxième parce que celui-ci est le seul à garantir la satisfaction de ce que Kant appelle nos besoins humains véritables, satisfaction à laquelle un être rationnel et prudent ne peut pas ne pas donner la priorité. C'est du moins de cette façon que Rawls interprète la position kantienne, hein, c'est-à-dire pour de bonnes et excellentes raisons, un agent moral placé dans les conditions indiquées choisira entre les deux mondes sociaux ajustés, comme les appelle Rawls, c'est-à-dire ajustés à deux maximes différentes et opposées, il choisira le monde social ajusté qui correspond à la maxime de l'intérêt commun. Rawls estime que Kant part vraisemblablement de l'hypothèse que notre décision au niveau de l'étape 4 de sa procédure, la procédure IC, donc notre décision est soumise à deux espèces de limitations en ce qui concerne l'information dont nous sommes censés disposer. Alors cette étape 4 de la procédure est celle qui correspond à l'essai d'imaginer ce que pourrait être le nouvel ordre de la nature qui résulterait de l'adjonction d'une nouvelle loi aux lois de la nature existantes, à savoir l'adjonction de la loi de la nature hypothétique qui deviendrait réelle si notre maxime était transformée en une loi universelle de la nature. Et ce que Rawls appelle un monde social ajusté n'est rien d'autre que le nouvel ordre de la nature qui est ainsi obtenu, dont on supposera qu'il a atteint un état d'équilibre dont nous pouvons identifier les caractéristiques pertinentes. Les deux limitations dont il faut tenir compte ici sont les suivantes. Premièrement, nous ignorons les caractéristiques, donc il s'agit encore une fois de choisir entre différentes espèces de mondes sociaux ajustés, comprenez, ajustés à des maximes différentes et probablement même opposées. Donc, dans cette situation, quand nous avons effectué ce choix, nous ignorons les caractéristiques plus spécifiques des personnes, y compris nous-mêmes, ainsi que le contenu spécifique de leurs fins et de leurs désirs, y compris celui des nôtres. Rawls estime que l'on peut sur ce point s'appuyer sur la façon dont Kant caractérise le règne des fins. Donc, il se réfère à un passage qui est tiré des fondements de la métaphysique des mœurs, que vous avez sous l'écran, et qui est cité par Rawls donc, dans son livre, par règne, c'est Kant qui parle, par règne, écrit-il, Kant, j'entends la liaison systématique de divers êtres raisonnables par des lois communes. Or, dans la mesure où des lois déterminent les fins en fonction de leur validité universelle, si l'on fait abstraction de ce qui vient différencier personnellement les êtres raisonnables, en même temps que tout le contenu de leurs fins privées, on parviendra à concevoir un ensemble organisé de façon systématique réunissant toutes les fins, aussi bien celles des êtres raisonnables comme fins en soi, que les fins propres que chacun peut se proposer, c'est-à-dire un règne des fins tel qu'il est possible d'après les principes ci-dessus. Donc ça, c'est la première limitation qui s'impose dans la situation à laquelle nous nous intéressons. Et la deuxième est la suivante. Quand nous nous demandons si nous pouvons ou non vouloir le monde social ajusté à notre maxime, nous devons raisonner comme si nous ne connaissions pas la position que nous sommes susceptibles d'occuper dans le monde en question. Et là, Rawls estime possible de trouver chez Kant une anticipation assez directe donc de l'idée que la négociation hein, sur le genre de monde social sur l'adoption duquel il conviendrait de se mettre d'accord, la discussion doit se produire derrière ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Et donc, j'avais déjà indiqué, je crois qu'il avait trouvé une anticipation de ça chez Kant. Il pense en effet que Kant nous incite fortement à considérer les choses de la manière qui vient d'être indiquée, en particulier dans l'analyse qu'il fait, donc Kant fait de la typique du jugement moral, donc dans la critique de la raison pratique. Vous voyez, par exemple, le passage suivant. Demande-toi toi-même si, en considérant l'action que tu as en vue, comme devant arriver d'après une loi de la nature dont tu serais toi-même une partie, tu pourrais encore la regarder comme possible pour ta volonté. Et de fait, c'est d'après cette règle que chacun juge si les actions sont moralement bonnes ou mauvaises. Ainsi, l'on dira, comment, si chacun voyait avec une parfaite indifférence les maux d'autrui, et si tu faisais partie d'un tel ordre de choses, y serais-tu avec l'assentiment de ta volonté. Donc supposons que la maxime de l'égoïsme soit érigée en loi universelle de la nature, considérons un instant le genre de nature que ça donnerait à la réalisation de laquelle cela aboutirait, tenant compte du fait que nous serions contraints de nous considérer comme une partie de cette nature, eh bien, la question c'est, accepterons-nous d'en être une partie avec l'assentiment de notre volonté? Là, la réponse semble évidemment devoir être, de toute évidence, négative. Alors, ce qui autorise à supposer qu'il y a une limite au savoir dont nous pouvons disposer sur la position que nous occuperions dans le monde social ajusté, et selon Rawls, le fait que nous y serions comme une partie, entre guillemets, du système de la nature, à quoi s'ajoute la suggestion qui nous est faite de nous demander si nous pourrions y être avec l'assentiment de notre volonté, c'est-à-dire en vertu d'une libre décision. La réponse à cette question dépendrait certainement de ce que nous savons sur la place que nous occuperions dans ce monde. Si je savais, avec une certitude totale, que j'occuperais toujours dans le monde social considéré, une position privilégiée qui me permet de me comporter de façon parfaitement égoïste et de rester complètement indifférent à tout ce qui peut arriver à autrui, je pourrais peut-être le choisir. Mais justement, il faut supposer que je ne peux rien savoir de tel. Je ne peux même pas savoir, parce que là, si j'étais censé savoir ce genre de choses, la réponse à la question de savoir comment choisir serait déterminée et le serait de façon tout à fait claire. Mais justement, donc, ainsi dit Rawls, il pense que c'est déjà ce que Kant suggérait. Donc justement, il faut supposer que je ne peux pas disposer de ce genre d'informations, je ne peux même pas savoir, en fait, et c'est aussi un aspect intéressant du problème, je ne peux même pas savoir, en fait, si une nature dans laquelle j'occuperai en permanence et en toute sécurité une position de cette sorte, c'est-à-dire une position privilégiée et même ultra-privilégiée, je ne peux pas savoir si une nature qui présenterait ce type de caractéristiques est ou non possible. Alors, de ces considérations, donc sur les deux limitations qui s'imposent dans la situation que nous considérons, Rawls tire la conclusion que vous avez sous les yeux. Si deux hypothèses sont valables, la procédure IC n'est pas appliquée correctement lorsque nous projetons dans le monde social ajusté le contenu spécifique de nos fins ultimes ou les caractéristiques particulières de nos circonstances politiques ou sociales actuelles ou celles de notre avenir probable. Et dans une société où tout homme est soit un noble, soit un serf, les nobles ne peuvent raisonner sur la base d'une maxime d'assistance mutuelle limitée aux seuls membres de leur classe. Une telle maxime reposerait sur une information illicite. Ils ne peuvent pas le faire parce que, en vertu du principe formulé il y a un instant, donc c'est une information dont ils ne peuvent pas, ne sont pas censés disposer au moment où ils entrent dans la négociation. Ils doivent au contraire souhaiter garantir avant tout la satisfaction des véritables besoins humains de tous les individus concernés. Donc il faut les imaginer dans une situation dans laquelle ils seront amenés nécessairement à se fixer comme but premier la satisfaction des véritables besoins humains de tous les individus concernés. Et ils ne peuvent le faire que dans un état d'ignorance. Il faut que, pour qu'ils puissent raisonner spontanément de cette façon, il faut soumettre l'information dont ils disposent à des restrictions draconiennes. Et on va voir tout de suite que c'est précisément ce qui, aux yeux de Wittmann, soulève un problème. C'est sur la base de l'ignorance et non pas d'une idée de la justice préalable qu'on finit par arriver à une certaine idée de la justice. Alors, j'ai déjà donné une idée de ce qui constitue l'objection principale de Wittmann. Il ne conteste assurément pas que l'on puisse et que l'on doive tirer de la philosophie morale de Kant des conséquences concernant la théorie de la justice. Et il considère même qu'il est indispensable, si on veut pouvoir parler d'une théorie de la justice qui serait d'inspiration kantienne, de tenir compte de ce fait essentiel que la philosophie morale entraîne des conséquences quant à la théorie de la justice. Mais justement, d'après lui, la théorie de la justice de Rawls n'a pas été tirée des principes de la philosophie morale kantienne. Elle a été tirée plutôt des principes de la doctrine du bonheur, à propos de laquelle il peut être utile de rappeler le contraste total qui existe chez Kant entre ce que l'on peut déduire de la considération du devoir pur et ce qui résulte d'un calcul des avantages et des bénéfices de quelque nature que puisse être celui-ci. Donc il y a un véritable gouffre chez Kant entre ces deux choses. Donc ce qu'on peut savoir à partir de la simple considération du devoir pur et ce qui résulte d'un calcul des avantages et des inconvénients. Vous voyez, par exemple, le passage suivant, tiré de la critique de la raison pratique, Kant dit « La connaissance du devoir se présente d'elle-même à chacun, tandis que ce qui apporte un avantage vrai et durable est toujours, si cet avantage doit être étendu à toute l'existence, enveloppé d'impénétrables ténèbres. » Donc, dans un cas, il y a une clarté complète. On a une connaissance du devoir qui se présente d'elle-même, qui est immédiatement accessible à tout le monde, tandis que, quand il s'agit de déterminer à quelles conditions on peut espérer obtenir ce qui est qualifié ici d'un avantage vrai et durable, là, évidemment, c'est l'opacité complète. Donc, la connaissance du devoir se présente d'elle-même à chacun, tandis que ce qui apporte un avantage vrai et durable est toujours, si cet avantage doit être étendu à toute l'existence, enveloppé d'impénétrables ténèbres, et qu'il faut beaucoup de prudence pour adapter la règle pratique ainsi déterminée par d'adroites exceptions et seulement d'une façon supportable aux fins de la vie. Mais la loi morale commande à chacun l'obéissance la plus ponctuelle. Juger ce qu'il y a à faire d'après cette loi ne doit donc pas être d'une difficulté telle que l'entendement le plus ordinaire et le moins exercé ne sache s'en tirer à merveille, même sans aucune expérience du monde. Donc la connaissance et l'application de la loi morale doit rester quelque chose de tout à fait simple, tandis que le calcul des avantages, qui encore une fois relève de la raison théorique, stricto sensu, et non pas véritablement de la raison pratique, peut être une chose extraordinairement compliquée. Or, la théorie de la justice de Rawls, souvenez-vous-en, se situe entièrement pour Vimin dans la perspective d'un... se situe précisément dans la perspective d'un calcul de l'avantage vrai et durable, susceptible d'être étendu autant que possible à toute l'existence, avec bien entendu toutes les incertitudes et les approximations que comporte, aux yeux de Kant, un calcul de cette sorte. Et la référence aux, ce qui est appelé les besoins humains véritables, dont il s'agit d'assurer la satisfaction pour le plus grand nombre, cette référence ne constitue ici en réalité qu'un simple déguisement destiné à masquer ce dont il s'agit véritablement. Le passage suivant de l'article de Vimin résume assez bien la situation de Rawls par rapport à Kant, telle qu'elle doit, selon lui, être comprise. Vimin dit « Éliminer l'égoïsme parmi les options du contrat, c'est accepter la réduction kantienne de la nature à l'égoïsme et à l'injustice. L'accord constaté ne se prolonge pas. Selon Kant, on échappe à l'égoïsme qu'en convertissant la maxime de l'action en une maxime universelle par la forme de la loi. Le formalisme pour Rawls est une trivialité et la raison ne saurait avoir un usage pratique spécifique irréductible au calcul intéressé. » Encore une fois, il n'est pas tout à fait certain, du point de vue de Vimin, que si on adopte une perspective comme celle de Rawls, on soit véritablement sorti à un moment quelconque du domaine de la raison théorique pour passer réellement, pour en arriver réellement à la raison pratique dans ce qu'elle comporte de spécifique et d'irréductible. Donc, le formalisme moral, dit Vimin, pour Rawls, c'est une trivialité. Et la raison ne saurait avoir un usage pratique spécifique, irréductible au calcul intéressé. On ne demande donc pas aux parties contractantes de réformer leurs intentions. On se contente d'amputer la connaissance qu'elles ont de leurs intérêts. Donc, si vous voulez, on leur impute une forme d'ignorance suffisamment complète pour éviter les conséquences non souhaitées. On se contente d'amputer la connaissance qu'elles ont de leurs intérêts et, par la position originelle, d'épurer l'égoïsme en le rendant indéterminé. Un processus d'abstraction tient lieu du formalisme et l'ignorance remplace l'autonomie. Je vous indiquais il y a un instant qu'effectivement, aux yeux de Vimin, c'est le rôle que Rawls fait jouer précisément à l'ignorance et au voile d'ignorance qui est problématique. Donc, les volontés individuelles, dit-il, agissent toujours par intérêt, continuent à agir par intérêt, mais cet intérêt s'est métamorphosé dans le désir général des biens primaires. Les seules conditions générales de l'action rationnelle à être maintenues sont précisément celles qui permettent de donner un sens au mot « bien », rareté modérée et préférence en prétention en compétition. Rareté modérée et prétention en compétition. Fin de citation. On peut avoir le sentiment, surtout après avoir lu les leçons sur l'histoire de la philosophie morale, que Vimin ne rend pas tout à fait justice à Rawls quand il l'accuse de réduire le formalisme moral kantien à une trivialité. Ce n'est sûrement pas exactement ce qu'il fait. Mais il n'en reste pas moins que Wiemann n'a probablement pas tort de soutenir que les conséquences bien réelles que la morale a pour la théorie du droit chez Kant font aller la théorie kantienne du droit plutôt du côté de la théorie de l'habilitation de Nozick que de celui de la théorie de la justice de Rawls. C'est un point sur lequel je voudrais ajouter quelques mots. Donc, ça peut sembler à première vue tout à fait surprenant et même paradoxal d'affirmer cela, à savoir que les conséquences qui résultent de la philosophie morale pour la théorie du droit chez Kant font aller la conception kantienne du droit plutôt du côté de Nozick que du côté de Rawls. Wiemann insiste en particulier sur le fait que la théorie de la justice distributive chez Kant ne se propose nullement de redistribuer les richesses et que le premier des postulats juridiques de la théorie du droit kantienne donne force à la formule « beati possidentes », « bienheureux les possédants ». Faute d'avoir le temps de discuter sérieusement la question, je vais me contenter de citer sur ce point ce que dit Nozick lui-même dans la préface de son livre, donc « Anarchie, État et Utopie ». Nozick dit ceci, « Nos conclusions concernant l'État sont qu'un État minimal, limité aux fonctions restreintes de la protection contre la force, le vol, la fraude, de la consolidation des contrats, et ainsi de suite, est justifié. Qu'un État ayant une extension plus grande, quel qu'il soit, violera les droits des personnes de ne pas être forcé de faire certaines choses est injustifié, et que l'État minimal est attrayant, aussi bien que juste. Deux implications notables qui résultent de cela sont que l'État ne peut pas utiliser son appareil coercitif dans le but d'amener certains citoyens à en aider d'autres, donc il ne peut pas, si vous voulez, décréter une sorte d'obligation d'assistance mutuelle, parce que ce faisant, il serait fatalement amené à violer les droits des individus. Donc deux implications notables qui résultent de cela sont que l'État ne peut pas utiliser son appareil coercitif dans le but d'amener certains citoyens à en aider d'autres, ou dans le but d'interdire des activités aux gens pour leur bien ou leur protection propre. Fin de citation. Alors pour couper court à des protestations qui reposeraient sur un simple malentendu, il faut préciser que des contraintes et des restrictions qu'un partisan de l'État minimal rejetterait si elles proviennent de l'autorité centrale ne sont pas pour autant exclues et peuvent malgré tout parfaitement être choisies librement par des individus qui ont choisi de vivre ensemble de cette manière. Donc, tout ce qui est dit, c'est que l'État n'a pas le droit d'imposer ce genre de contraintes. Il n'est dit nullement que des individus ne peuvent pas souhaiter se les imposer et le faire explicitement. Alors Nozick va même jusqu'à remarquer, à propos du genre de système qu'il préconise, dans ce système du laisser-faire, il pourrait se trouver que, bien qu'elle soit permise, il n'y a pas d'institution capitaliste, entre guillemets, fonctionnant réellement, ou que, donc ça ne conduira pas, d'après lui, ça ne conduira pas fatalement à un système de type capitaliste. Il pourrait se faire donc qu'il n'y ait pas d'institution capitaliste, entre guillemets, fonctionnant réellement, ou que certaines communautés les ont et d'autres non, ou que certaines communautés ont certaines d'entre elles, ou ce que vous voulez. Donc oui, ça laisse une grande latitude concernant la réponse qui va être adoptée à ce genre de questions. Le point crucial étant encore une fois que la décision doit incomber aux individus, et non pas résulter d'une décision de l'autorité centrale. Dans la deuxième partie de son livre, Nozick entreprend de démontrer que nous n'avons pas besoin d'un État plus étendu que l'État libéral et minimal qu'il défend. Donc nous n'avons pas besoin d'un État plus puissant que ce genre d'État, l'État libéral et minimal qu'il propose, pour réaliser la justice distributive entre les citoyens. Et il développe une théorie de la justice distributive qu'il appelle la théorie de l'habilitation, entitlement, donc la théorie de l'habilitation dont il se sert, donc il se sert de cette théorie de la justice, appelée la théorie de la justice distributive, appelée la théorie de l'habilitation, il s'en sert pour critiquer d'autres conceptions de la justice distributive qui exigent l'intervention d'un État ayant des prérogatives plus étendues, et en particulier la conception de Rawls. Donc Rawls est un des théoriciens qui sont critiqués de la façon la plus directe, très courtoisement, dans le livre de Nozick. Wiemann dit que dit que c'est plutôt vers l'idée d'un État comme celui que préconise Nozick, autrement dit un État libéral, une espèce libérale et minimale, c'est plutôt vers un État de cette sorte que nous oriente la philosophie morale et la théorie du droit de Kant. Et je ne crois pas que, si Wiemann dit cela, ce soit uniquement parce que ses idées politiques à lui étaient certainement plus proche de celle de Nozick que de celle de Rawls. Je m'empresse d'ajouter cependant qu'on n'est sûrement pas obligé de considérer la proximité qui existe entre Kant et Nozick, si elle est aussi réelle que le soutient Villemin, comme un argument en faveur de la conception kantienne. Il ne faut pas non plus perdre de vue, bien entendu, que la question posée est « L'État peut-il être autorisé à contraindre les citoyens à s'aider entre eux, et en particulier à aider les plus démunis d'entre eux ? Donc peut-il être autorisé à le faire sans que cela risque de constituer de sa part une violation des droits des personnes ?» Il ne peut évidemment y avoir aucun doute du point de vue kantien sur le fait qu'un agent moral rationnel et raisonnable ne pourrait pas ne pas se sentir obligé de faire sur ce point spontanément ce que l'État doit s'interdire pour sa part de lui imposer. On pourrait objecter naturellement que cela ne laisse pas beaucoup d'espoir pour la réalisation d'une justice distributive réelle entre les citoyens. Et c'est tout à fait ce que je pense et ce que confirment du reste largement les performances réalisées dans ce domaine par les États qui semblent les plus près de constituer des réalisations concrètes du modèle de l'État minimal défendu par Nozick. Mais c'est évidemment une question qu'il me faut réserver pour une autre occasion. Villemin reproche apparemment à la théorie rawlsienne de manquer de conviction, d'ambition et d'optimisme sur le plan moral et de se contenter du strict minimum, à savoir une simple apparence de justice. Mais on peut avoir envie d'objecter que ce n'est pas une simple apparence d'injustice, mais une injustice bien réelle et criante que la théorie rivale est susceptible de tolérer et d'encourager. Mais encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur cette question, ça pourrait nous entraîner trop loin. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots. Je vais être obligé d'abréger ce que j'avais prévu de vous dire, parce que malheureusement le temps passe et il ne nous restera plus que à partir de la semaine prochaine, que 3 séances. Mais il faut quand même que je vous dise un mot de la confrontation que Villemin effectue entre donc deux formes de rationalisme exemplifiées respectivement par le cas de Saint-Anselme et celui de Kant. Alors, une bonne façon de récapituler ce que j'ai essayé de vous dire à propos de la manière dont il utilise le concept d'intuitionnisme pour caractériser une option philosophique systématique qui s'applique simultanément à la raison théorique et à la raison pratique, à la théorie de la connaissance et à la théorie de l'action. Donc une bonne façon de récapituler cela pourrait être de considérer le dernier des articles qu'il a réunis dans le recueil intitulé « L'intuitionnisme kantien ». Il s'agit d'un article qui s'intitule « Justice anselmienne et bonne volonté kantienne, essai de comparaison ». C'est un article qui date de 1993. Bien entendu, la comparaison pourrait sembler à première vue difficile et paradoxale, puisque au moins sur toutes les questions qui touchent de près ou de loin aux données de la foi et à la théologie, les oppositions doctrinales sont évidentes. Que peut-il y avoir de commun et même comparable entre la religion dans les limites de la simple raison que propose Kant et la foi chrétienne d'un auteur comme saint Anselme ? Alors Villemin est bien entendu tout à fait conscient de cela. Il dit ceci: Anselme parle d'une foi d'Église bien différente de la foi rationnelle et des postulats de la raison pratique, seul admis par Kant. Mais lorsqu'il isole tel ou tel dogme pour l'éclairer par la raison, Anselme ne l'isole pas de la tradition scripturaire. Même lorsqu'il isole tel ou tel dogme pour l'éclairer par la raison, Anselme ne l'isole pas de la tradition scripturaire et surtout ne cherche pas à en donner une interprétation symbolique qui ferait fi de l'histoire et de la révélation. En ceci, partisan des Lumières, Kant, en revanche, tient Jésus pour un maître de vérité et conteste sa divinité. Il rejette a priori comme pernicieuses pour l'autonomie morale les considérations de grâce et de rachat, telles que celles que développe donc saint Anselme dans le cours Deus Homo. Qu'eût-il dit des calculs, même examinés critiquement, sur le rapport entre le nombre des anges réprouvés et des hommes élus ? Fin de citation. Mais donc il y a là de toute évidence une opposition indiscutable, mais d'après Villemin, cette opposition criante risque d'en masquer une autre, plus dissimulée et plus intéressante. Une opposition qui porte sur deux conceptions distinctes et parfois contraires de la raison, dont le conflit est d'autant plus significatif et révélateur qu'ils appartiennent apparemment tous les deux à une même tradition philosophique, à savoir celle du rationalisme. Donc, indépendamment de cette divergence effectivement radicale sur l'attitude à adopter à l'égard de la révélation, il y a donc un choix différent qui est fait entre deux formes de rationalisme que Villemin appelle donc d'un côté le rationalisme dogmatique et de l'autre le rationalisme intuitionniste. Voyez ce que dit Villemin sur ce point. Ainsi précisé, la question est alors la suivante. Si les deux philosophes s'entendent jusque dans le détail de leur doctrine morale, sur la rectitude, sur la liberté, sur la chute, pour quelles raisons philosophiques, entièrement ou très largement indépendantes de leur foi et de leur attitude à l'égard de la révélation, donc pour quelles raisons philosophiques sont-ils en complet désaccord dès qu'on précise la façon dont chacun conçoit ce qu'est la raison pratique et surtout son rapport avec la raison théorique. Donc vous voyez que d'après Villemin, indépendamment de cette question, donc la question de leur attitude à l'égard de la foi et à l'égard de la révélation, donc indépendamment de cette opposition-là, il y en a une autre qui a une origine philosophique. Villemin insiste sur le fait que les raisons de cette dernière opposition sont des raisons philosophiques et qui consiste dans le fait qu'ils sont en complet désaccord, je cite à nouveau Villemin, dès qu'on précise la façon dont chacun d'eux conçoit ce qu'est la raison pratique et surtout son rapport avec la raison théorique. En fait, c'est surtout sur le rapport entre nature du rapport entre la raison théorique et la raison pratique qui se trouve être en désaccord. Autrement dit, indépendamment de ce qui les sépare sur les questions de foi et de religion, n'y a-t-il pas lieu de considérer aussi et même d'abord ce qui les sépare du point de vue proprement philosophique et qui consiste dans le fait qu'ils optent à l'intérieur du rationalisme pour deux orientations fondamentalement différentes. Saint Anselme pour la forme de rationalisme qu'on peut qualifier de réaliste ou dogmatique, et Kant pour la forme de rationalisme que l'on peut appeler critique et pratique. Alors la réponse à cette question, aux yeux de Villemin, ne fait guère de doute. Pour comprendre réellement ce qui oppose en profondeur les deux penseurs, et qui s'exprime notamment à propos de la question de la révélation, il faut reconstruire et comparer les deux systèmes philosophiques concernés dans leur ensemble. Autrement dit, il faut s'intéresser à la forme de système philosophique pour laquelle ils ont opté respectivement. Et on se tromperait gravement si on croyait suffisant pour caractériser leurs positions respectives de prendre en considération, de regarder uniquement le désaccord qui existe entre eux sur la question de l'attitude à adopter à l'égard de la foi et de la révélation, à l'égard du problème de la foi et de la révélation. Villemin dit « Une comparaison philosophique, surtout lorsqu'elle ne suppose aucune influence historique, comme c'est le cas ici, n'a de chance d'aboutir qu'une fois déterminée la relation de chacun des termes avec le système auquel il appartient. » Donc il faut considérer dans les deux cas le système pris dans sa totalité. Et pas seulement un élément, en l'occurrence celui qui est constitué par l'attitude adoptée à l'égard de la foi, la question de la foi et de la religion. Donc il faut considérer le système, il faut considérer la relation de chacun des termes avec le système auquel il appartient. Et cette relation avec le système, on l'a dit, se définit moins en fonction de la foi révélée, qu'on suppose ici et qu'on rejette là. Donc, Saint Anselme la suppose, Kant la rejette. La comparaison, ajoute Villemin, entre criticisme et thomisme eût impliqué la même supposition et le même rejet, c'est-à-dire on aurait affaire à un auteur, Saint Thomas, qui suppose la religion révélée, et un auteur, Kant, qui rejette ce genre de choses, mais elle eût entraîné donc de toute autre conséquence, parce que les deux systèmes philosophiques concernés sont différents. Donc, la relation avec le système, qui encore une fois est essentielle, se définit moins en fonction de la foi révélée, qu'on suppose ici et qu'on rejette là, qu'en fonction du système philosophique qui ici interprète la révélation et là conduit à remplacer le savoir par la foi. Il faut donc préciser ce que sont les deux formes de rationalisme que nous comparons, dogmatisme anselmien et criticisme kantien. Autrement dit, comme vous le voyez, même chez un penseur chrétien comme Saint Anselme, la philosophie possède apparemment, en tout cas pour Villemin, une autonomie importante par rapport à la religion, et la foi révélée laisse ouverte une possibilité de choix et une obligation de choisir entre des options philosophiques qu'elle ne détermine pas. C'est, comme on le voit, le système philosophique choisi qui, d'après Villemin, fait que, dans un cas, la révélation est interprétée et éclairée par la raison, et dans l'autre, le savoir est invité à faire place à la foi, comprenez la foi rationnelle. Un principe commun, formellement identique, gouverne le système anselmien et le système kantien, à savoir celui qui énonce que ni Dieu, dans le cas de saint Anselme, ni la raison pratique, dans le cas de Kant, ne doivent pouvoir commander ce qui est impossible. On doit pouvoir faire ce que l'on doit faire. Et cette exigence implique la liberté comme pouvoir d'agir de la façon exigée. Mais le possible n'est pas compris de la même façon dans les deux cas. Alors c'est sur ce point que j'aimerais terminer. Donc il y a, aux yeux de Wittmann, un élément crucial est constitué par cette divergence d'interprétation qu'il y a entre saint Anselme et Kant concernant l'interprétation du possible. La conception que saint Anselme a du possible est éminemment réaliste, c'est-à-dire que le possible est chez lui objectif, rapporté à la création et à son ordre avant même d'être réalisé. Wittmann dit « le pouvoir de la liberté, dont divin, correspond à une essence dont elle tire toute sa réalité » et qui, par son caractère rationnel, la rapproche au maximum, de l'essence suprême. Alors, rien de tel ne se passe chez Kant en ce qui concerne le problème de la liberté et de sa relation à la possibilité, donc, puisque pour Kant, le point de vue réaliste doit être remplacé par le point de vue critique. Alors, en ce qui concerne la conception kantienne de la liberté, Wittmann dit « La liberté est bien le fondement ontologique général du devoir, en ce qu'un être raisonnable ne saurait être inconditionnellement obligé s'il n'était libre. Le chapitre 12 du De Veritate, donc chez saint Anselme, ne dit rien d'autre, sauf à associer illumination et devoir. Mais lorsque le devoir m'oblige, moi qui ne me connais qu'à titre de phénomène, cette mienne obligation n'étant possible que si je suis libre, bien que je ne possède aucun moyen de le savoir en dehors de cette obligation même, je dois postuler et donc croire que j'existe comme être intelligible, libre. Le possible échappe alors à toute intuition qui illuminerait par l'intelligence une foi historiquement donnée. La foi qui ne retient d'ailleurs que la conséquence du devoir à remplacer le savoir. Donc on voit qu'il y a réellement une divergence fondamentale concernant la compréhension du possible, et ça entraîne entre Kant et saint Anselme donc une divergence radicale concernant la façon de comprendre les relations de la raison théorique avec la religion, avec la raison pratique, et ce qui est en effet le point essentiel. Et on est tenté de dire, et c'est là-dessus que je conclurai, que chez Kant, la foi n'a pas sa place dans le domaine de la connaissance, où elle se transformerait en illuminisme, et la connaissance n'a pas sa place dans le domaine de la foi, qui remplace la première lorsqu'on passe du domaine de la raison théorique à celui de la raison pratique. C'est un point qui est tout à fait important. Donc il n'y a pas de place qui est faite à la fois dans le domaine de la connaissance, et il n'y a pas non plus de place qui peut être faite dans le domaine de la foi à la connaissance proprement dite. Or, et c'est en ça que consiste, bien sûr, la coupure radicale qui est établie chez Kant entre la raison théorique et la raison pratique. Or, cette coupure entre les deux raisons, la raison théorique et la raison pratique, n'a pas de sens pour saint Anselme. Comme le dit Wittmann, je conclurai là-dessus, à propos de la position respective qui est adoptée par chacun des deux auteurs sur ce problème, la distinction des deux raisons, a-t-elle ou non lieu d'être et de quelle façon doit-elle être comprise? La distinction de ces deux raisons est étrangère à Anselme. Donc il n'y a pas chez lui non seulement il n'y a pas de coupure, mais il n'y a même pas de distinction véritable. La distinction de ces deux raisons est étrangère à Anselme. Certes, dans l'être raisonnable, il fait le partage entre science, action et volonté, mais la volonté, qu'on la regarde comme instrument, affection ou usage, est ce que, plus tard, Descartes appellera un mode de l'âme, dont la science est un autre mode, d'ailleurs nécessaire à l'usage de la liberté. Bien que ces modes diffèrent l'un de l'autre, ils concourent à constituer la créature sans que nous soyons invités à accorder à l'un quelque privilège sur l'autre. Il y a, entre les deux philosophies dont nous sommes en train de parler, saint Anselme et Kant, une opposition fondamentale sur la nature de la connaissance humaine qui, d'après Wittmann, a pour résultat de modifier en profondeur les analogies et même les équivalences qui ont pu être relevées entre leurs doctrines morales respectives. Vous voyez encore ce passage donc de Villemain. Le principe de la transformation est simple. Autrement dit, même lorsqu'ils ont, peuvent donner l'impression de défendre, de soutenir, de formuler des thèses qui se ressemblent formellement parlant, en réalité, il y a une transformation profonde qui s'opère lorsqu'on passe de l'un à l'autre, donc de Saint-Anselme à Kant. Le principe de la transformation est simple. Chez Anselme, science, volonté et action restent des modes également transparents de la créature raisonnable, tandis que chez Kant, la volonté, identifiée à la raison pratique, produit certes dans le monde extérieur des actions que nous pouvons connaître à titre de phénomène, mais reste elle-même inaccessible à notre connaissance. Donc il y a une opacité de la volonté qui n'existe pas chez saint Anselme. La cause intentionnelle de l'action relève du monde intelligible, l'action seule appartenant au monde sensible ou phénoménal. Il faudra sans doute que je vous donne quelques explications supplémentaires sur ce passage qui est particulièrement condensé et peut-être un peu énigmatique. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.